Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation, livre 4, paragraphe 58. La satisfaction, le bonheur comme l'appellent les hommes, n'est au propre et dans son essence rien que de négatif. En elle, rien de positif. Il n'y a pas de satisfaction qui d'elle-même et comme de son propre mouvement vienne à nous. Il faut qu'elle soit la satisfaction d'un désir. Le désir, en effet, la privation, est la condition préliminaire de toute jouissance. Or, avec la satisfaction, cesse le désir, et par conséquent, la jouissance aussi. Donc, la satisfaction, le contentement, ne saurait être qu'une délivrance à l'égard d'une douleur, d'un besoin. Sous ce nom, il ne faut pas entendre en effet seulement la souffrance effective, visible, mais toute espèce de désir qui, par son importunité, trouble notre repos, et même cet ennui qui tue, qui nous fait de l'existence un fardeau. Or, c'est une entreprise difficile d'obtenir, de conquérir un bien quelconque. Pas d'objet qui ne soit séparé de nous par des difficultés, des travaux sans fin. Sur la route, à chaque pas, surgissent des obstacles. Et la conquête une fois faite, l'objet atteint, qu'a-t-on gagné? Rien, assurément, que de s'être délivré de quelque souffrance, de quelque désir, d'être revenu à l'état où l'on se trouvait avant l'apparition de ce désir. Le fait immédiat pour nous, c'est le besoin tout seul, c'est-à-dire la douleur. Pour la satisfaction et la jouissance, nous ne pouvons les connaître qu'indirectement. Il nous faut faire appel au souvenir de la souffrance, de la privation passée, qu'elles ont chassé tout d'abord. Voilà pourquoi les biens, les avantages qui sont actuellement en notre possession, nous n'en avons pas une vraie conscience, nous ne les apprécions pas. Il nous semble qu'il n'en pouvait être autrement. Et en effet, tout le bonheur qu'il nous donne, c'est d'écarter de nous certaines souffrances. Il faut les perdre pour en sentir le prix. Le manque, la privation, la douleur, voilà la chose positive, et qui sans intermédiaire s'offre à nous. Telle est encore la raison qui nous rend si douce la mémoire des malheurs surmontés par nous. Besoin, maladie, privation, etc. C'est en effet notre seul moyen de jouir des biens présents. Ce qu'on ne saurait méconnaître non plus, c'est qu'en raisonnant ainsi, en égoïste, l'égoïsme au reste est la forme même de la volonté de vivre, nous goûtons une satisfaction, un plaisir du même ordre au spectacle ou à la peinture des douleurs d'autrui. Lucrèce l'a dit en de beaux vers, et bien nettement, au début de son second livre. Citation. Il est doux, quand la mer est forte, quand les vents agitent l'onde, d'assister du rivage aux efforts des marins. Non que la souffrance d'autrui soit pour nous une joie véritable, mais voir de quelles peines on est à l'abri, voilà ce qui est doux. Fin de citation. Pourtant, nous le verrons plus tard, cette sorte de joie, cette façon de se rendre sensible à soi-même son bien-être, est bien voisine du principe même de la méchanceté active. Tout bonheur est négatif, sans rien de positif. Nulle satisfaction, nul contentement, par suite, ne peut être de durée. Au fond, ils ne sont que la cessation d'une douleur ou d'une privation. Et, pour remplacer ces dernières, ce qui viendra sera infailliblement ou une peine nouvelle, ou bien quelque langueur, une attente sans objet, l'ennui. C'est de cette vérité qu'on trouve une trace dans ce fidèle miroir du monde, de la vie et de leur essence, je veux dire dans l'art, surtout dans la poésie. Un poème épique ou dramatique ne peut avoir qu'un sujet. Une dispute, un effort, un combat dont le bonheur est le prix. Mais quant au bonheur lui-même, au bonheur accompli, jamais il ne nous en fait le tableau. À travers mille difficultés, mille périls, il conduit ses héros au but. À peine l'ont-ils atteint, vite, le rideau. Et que lui resterait-il à faire, sinon de montrer que le but même, si lumineux, et où le héros croyait trouver le bonheur, était pur du prix. Qu'après l'avoir atteint, il ne s'en est pas trouvé mieux qu'auparavant. comme il ne peut y avoir de vrai et solide bonheur, le bonheur ne peut être pour l'art un objet. À vrai dire, le but propre de l'idylle, c'est justement la peinture de ce bonheur impossible. Mais aussi, chacun le voit bien, l'idylle par elle-même n'est pas un genre qui se tienne. Toujours, entre les mains du poète, elle tourne ou à l'épopée, une toute petite épopée, avec de petits chagrins, de petits plaisirs, de petits efforts, c'est le cas ordinaire, ou bien à la poésie descriptive. Alors, elle peint la beauté de la nature, et se réduit à ce mode de connaissance pure, libre de tout vouloir, qui, à vrai dire, est le seul bonheur véritable. Non plus un bonheur précédé par la souffrance et le besoin, et traînant à sa suite le regret, la douleur, le vide de l'âme, le dégoût, mais le seul qui puisse remplir, sinon la vie entière, du moins quelques moments dans la vie. Et ce que nous voyons dans la poésie, nous le retrouvons dans la musique. La mélodie nous offre comme une histoire très intime de la volonté, arrivée à la conscience des mystères de la vie, du désir, de la souffrance et de la joie, du flux et du reflux du cœur humain. La mélodie, c'est un écart par lequel on quitte la tonique et, à travers mille merveilleux détours, on arrive à une dissonance douloureuse pour retrouver enfin la tonique qui exprime la satisfaction et l'apaisement de la volonté. Mais après elle, plus rien à faire. Et quant à la soutenir un peu longtemps, ce serait la monotonie même, fatigante, insignifiante, et qui traduit l'ennui. Ainsi, on le voit assez par tous ces éclaircissements, nulle satisfaction possible ne peut durer. Il n'est point de bonheur positif. La raison de cela, on la comprend par ce qui a été dit à la fin du second livre. La volonté, la vie humaine comme tout phénomène n'en est que la manifestation, se réduit à un effort sans but, sans fin. Ce caractère d'infinité, on le retrouve sur tous les points de cet univers où elle s'exprime, à commencer par les formes les plus générales de la réalité visible, l'espace et le temps sans bornes, et jusqu'à la plus achevée de ces manifestations, la vie, l'effort humain. On peut concevoir, en théorie, trois formes extrêmes de la vie humaine. Et ces formes sont les trois éléments dont en pratique toute vie est composée. D'abord, la volonté énergique, la vie à grande passion, Raja Guna. Elle se manifeste dans les personnages historiques à grand caractère. Elle a sa représentation dans l'épopée et le drame. Mais elle peut aussi se montrer sur des scènes moins vastes. Car ici, ce qui fait la grandeur des objets, ce n'est pas leurs dimensions relatives en dehors de nous, mais leur force à émouvoir la volonté. En second lieu, vient la pure connaissance, la contemplation des idées, privilège réservé à l'intelligence affranchie du service de la volonté. Et c'est là la vie du génie, Sattva Guna. Enfin, la léthargie la plus profonde de la volonté et de l'intelligence au service de la volonté. L'attente sans objet, l'ennui, où la vie semble se figer. Tamaguna. La vie de l'individu est bien loin de se maintenir dans l'un de ces extrêmes. Rarement elle y touche, et le plus souvent, elle ne fait que s'avancer d'une démarche débile, hésitante, vers l'un ou l'autre côté, réduite à de mesquins désirs tendant vers des objets misérables, avec des retours perpétuels qui la font échapper à l'ennui. Vraiment, on a peine à croire à quel point est insignifiante, vide de sens, aux yeux du spectateur étranger, à quel point stupide et irréfléchi, de la part de l'acteur lui-même, l'existence que coule la plupart des hommes. Une attente sotte, des souffrances ineptes, une marche titubante à travers les quatre âges de la vie, jusqu'à ce terme, la mort. En compagnie d'une procession d'idées triviales. Voilà les hommes, des horloges. Une fois montés, cela marche sans savoir pourquoi. À chaque engendrement, à chaque naissance, c'est l'horloge de la vie humaine qui se remonte, pour reprendre sa petite ritournelle, déjà répétée une infinité de fois, phrase par phrase, mesure par mesure, avec des variations insignifiantes. Un individu, un visage humain, une vie humaine, cela n'est qu'un rêve très court de l'esprit infini qui anime la nature de cette opiniâtre volonté de vivre. Une image fugitive de plus, qu'en jouant, elle esquisse sur sa toile sans fin l'espace et le temps, pour l'y laisser durant un moment. Moment qui, au regard de ces deux immensités, est un zéro. Puis l'effacer et faire ainsi place à d'autres. Pourtant, et c'est là dans la vie ce qui est fait pour donner à réfléchir, chacune de ces esquisses d'un moment, chacune de ces boutades, se paie. La volonté de vivre dans toute sa fureur, des souffrances sans nombre, sans mesure, puis au bout, un dénouement longtemps redouté, inévitable enfin, cette chose amère, la mort, voilà ce qu'elle coûte. Et voilà pourquoi le seul aspect d'un cadavre nous rend si brusquement grave. La vie de chacun de nous, à l'embrasser dans son ensemble d'un coup d'œil, à n'en considérer que les traits marquants, est une véritable tragédie. Mais quand il faut, pas à pas, l'épuiser en détail, elle prend la tournure d'une comédie. Chaque jour apporte son travail, son souci. Chaque instant, sa duperie nouvelle. Chaque semaine, son désir, sa crainte. Chaque heure, ses désappointements, car le hasard est là, toujours aux aguets pour faire quelques malices. Pure scène comique que tout cela. Mais les souhaits jamais exaucés, la peine toujours dépensée en vain, les espérances brisées par un destin impitoyable, les mécomptes cruels qui composent la vie entière, la souffrance qui va grandissant et, à l'extrémité du tout, la mort, en voilà assez pour faire une tragédie. On dirait que la fatalité veut, dans notre existence, compléter la torture par la dérision. Elle y met toutes les douleurs de la tragédie. Mais pour ne pas nous laisser au moins la dignité du personnage tragique, elle nous réduit, dans les détails de la vie, au rôle du bouffon. Toutefois, si empressés que soient les soucis, petits et grands, à remplir la vie, à nous tenir tous en haleine, en mouvement, ils ne réussissent point à dissimuler l'insuffisance de la vie à remplir une âme, ni le vide et la platitude de l'existence, non plus qu'ils n'arrivent à chasser l'ennui, toujours aux aguets pour occuper le moindre vide laissé par le souci. De là vient que l'esprit de l'homme, n'ayant pas encore assez des soucis, des chagrins et des occupations que lui fournit le monde réel, se fait encore de mille superstitions diverses un monde imaginaire, s'arrange pour que ce monde lui donne 100 mots et absorbe toutes ses forces, au moindre répit que lui laisse la réalité. Car ce répit, il n'en saurait jouir. C'est tout naturellement ce qui arrive au peuple auquel la vie est facile, grâce à un climat et à un sol clément. Ainsi d'abord chez les hindous, puis chez les grecs, chez les romains, et parmi les modernes, chez les italiens, chez les espagnols, etc. L'homme se fabrique, à sa ressemblance, des démons, des dieux, des saints. Puis, il leur faut offrir sans cesse sacrifices, prières, ornements pour leur temple, vœux, accomplissement de vœux, pèlerinages, hommages, parures pour leur statue, et le reste. Le service de ces êtres s'entremêle perpétuellement à la vie réelle, l'éclipse même. Chaque événement devient un effet de l'action de ces êtres. Le commerce qu'on entretient avec eux remplit la moitié de la vie, nourrit en nous l'espérance et, par les illusions qu'ils suscitent, nous devient parfois plus intéressant que le commerce des êtres réels. C'est là l'effet et le symptôme du double besoin de l'homme. Besoin de secours et d'assistance, besoin d'occupation pour abréger le temps. Sans doute, souvent le résultat va directement contre le premier de ses besoins, puisque, en chaque conjoncture fâcheuse ou périlleuse, il nous fait consumer un temps et des ressources qui auraient leur emploi ailleurs, en prière et offrande. mais il n'en est que plus favorable à l'autre besoin, grâce à ce commerce fantastique avec un monde rêvé. C'est là le bénéfice qu'on tire des superstitions. Et il n'est pas à dédaigner.